Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, député des Alpes de Haute-Provence, ancien ministre de l'Intérieur. Questions et réactions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Bonjour Christophe Castaner.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être au micro ce matin. On est quasiment à 200 jours de l'élection présidentielle, 205 pour être précis. On va voir avec vous dans quelques instants quel bilan vous faites du quinquennat d'Emmanuel Macron et comment vous jugez aussi le début de la campagne. Mais d'abord, car c'est un sujet qui frappe les Français et surtout les Français les plus modestes, parlons des prix de l'énergie qui flambent et vont continuer de flamber dans les semaines et les mois qui viennent après le chèque de 100 euros déjà annoncé pour près de 6 millions de ménages modestes. Le gouvernement va prendre de nouvelles mesures que le Premier ministre Jean Castex détaillera ce soir aux 20h de TF1. On parle d'une baisse des taxes, d'un gel temporaire des tarifs du gaz. Pouvez-vous nous en dire plus ce matin ?
D'abord, permettez-moi de rebondir globalement sur ce que dit cette augmentation du prix. Elle dit la problématique de notre indépendance énergétique dans notre pays, elle dit l'enjeu de la décarbonation. Et donc, il faut traiter l'approche globale et pas seulement l'urgence, mais il faut aussi répondre à l'urgence. C'est un sujet d'investissement. À la fin de cette année, nous aurons accompagné près d'un million de familles pour la rénovation énergétique. Et la meilleure façon de dépenser moins, c'est de consommer moins. Et c'est un enjeu aussi environnemental. Mais il y a l'urgence.
Il y a l'urgence
et vous avez raison, votre question est importante. D'abord, nous avons créé le chèque énergie pour aider les plus fragiles. Près de 6 millions de familles françaises sont accompagnées.
Est-ce qu'il va être valorisé ?
150 euros, c'était son montant. Nous venons de l'augmenter à 100 euros qui seront versés, 200 euros. Ça fera 250 sur cette année, ce sera versé au mois de décembre. Et à nouveau, au mois d'avril, 150 euros supplémentaires qui seront versés. Et le Premier ministre, ce soir, apportera aussi des réponses. Parce qu'il faut avoir en tête, par exemple, que les vendeurs, et je pense à EDF, l'entreprise publique, gagnent un peu d'argent quand il y a une augmentation du prix parce qu'il y a un effet de marge. Et donc, il est nécessaire aussi de faire en sorte que ce que l'État, à travers EDF, pourrait retrouver en marge de manœuvre, soit redistribué aux plus fragiles d'entre nous.
À l'instant, Barbara Pompili dit que le gouvernement s'attend à une hausse des prix de l'électricité autour de 12% en février prochain. Ça monte vraiment très très vite. Jean-Luc Mélenchon, lui, a une solution plus radicale. Il vous demande de bloquer les prix de l'énergie comme vous aviez bloqué le prix, par exemple, des masques et des gels hydroalcooliques pendant l'épidémie de Covid. Que lui répondez-vous ?
Bah écoutez, ce serait simple si nous produisions nous-mêmes notre propre énergie. La réalité, c'est que nous achetons la quasi-totalité du gaz et une grande partie de notre énergie à l'étranger. Et les cours augmentent, liés à plein de raisons, y compris des raisons géostratégiques. Donc plutôt que de faire cela, posons-nous la vraie question, celle de notre capacité à produire des énergies. Tout à l'heure, je parlais de l'indépendance énergétique, de la décarbonation. Peut-être que nous aurons l'occasion aussi de nous interroger sur la juste place de l'énergie nucléaire dans notre pays.
Redoutez-vous que ces augmentations puissent déboucher, Christophe Castaner, sur une crise sociale comme celle des Gilets jaunes qui est partie, on le rappelle, d'une augmentation du prix du carburant.
D'une perspective d'augmentation est liée justement à la volonté de moins consommer dans notre pays. Et chacun a en tête qu'on défend à la fois la taxe carbone et en même temps on refuse ses effets. On est toujours un peu dans ces contradictions. Moi je redoute toujours cela, surtout que dans ce quinquennat nous avons fait en sorte que les plus fragiles aient une hausse significative de leurs revenus. Et je pense notamment aux salariés autour du SMIC qui ont des augmentations de l'ordre de 150 euros net mensuels. Je pense aux plus fragiles dans la fonction publique, au personnel hospitalier. Je pense aux policiers, quand j'étais en responsabilité, où on a accompagné les plus bas salaires avec des hausses significatives. Si c'est pour qu'elles soient mangées par le quotidien, c'est un vrai problème. Et donc oui, nous prenons cela en compte. C'est la raison pour laquelle un premier niveau de réponse a été porté. Le Premier ministre complétera ce soir.
Comment vous expliquez, vous dites on a fait des efforts pour les plus démunis. Dans une enquête d'Opinionway qui date d'il y a quelques jours, 56% des Français, 6 Français sur 10 quasiment, jugent que leur pouvoir d'achat a plutôt diminué pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous trouvez ça injuste ?
La question n'est pas de savoir si c'est injuste ou pas. Il y a seulement, dans le même sondage, seulement 8% des Français qui ont le sentiment d'avoir une augmentation du pouvoir d'achat, alors que toutes les démonstrations de l'INSEE, non pas des politiques, je sais qu'on se méfie de notre parole, font la démonstration inverse.
Mais pourquoi le ressenti, pour parler de ce terme à la mode ?
À l'instant, je parlais des plus bas salaires, de ceux qui sont au niveau du SMIC. Vous savez, quand vous avez le SMIC, si vous avez 150 euros d'augmentation, c'est significatif, mais ça ne suffit pas. parce que de toute façon, on ne vit pas bien, même avec ce niveau de rémunération.
Alors pourquoi vous n'augmentez pas le SMIC comme beaucoup le proposent à gauche notamment? Pourquoi vous ne l'augmentez pas? Là, il augmente, mais il augmente pas parce que l'inflation augmente, pas parce que le gouvernement décide de l'augmenter.
Non, mais pour une raison simple, c'est que si vous décidez d'augmenter... Oui, mais le gouvernement a fait un choix. Celui justement de ne pas augmenter le SMIC pour faire en sorte que ce soit pas les petites entreprises, le boulanger, le cafetier qui se retrouvent dans cette situation, qui du coup augmentent les prix et attaquent le pouvoir d'achat, le pouvoir de vivre de nos concitoyens. Par contre, à l'inverse, nous avons fait en sorte que les revenus soient augmentés. Et en conséquence de cela, c'est-à-dire des revenus qui augmentent et un prix du travail qui n'explose pas, parce que c'est facile de dire il suffit d'augmenter les salaires, nous sommes aujourd'hui le premier pays en termes d'attractivité internationale de l'OCDE. C'est ça la conséquence. Dire on augmente le SMIC, c'est dire aussi, bah, demain j'assumerai de payer ma baguette de pain 10 centimes de plus parce que la masse salariale de la boulangerie où je vais chercher mon pain est importante.
Sur l'économie toujours, Christophe Castaner, la droite multiplie les attaques contre l'euphorie dépensière de l'exécutif. Ça, ce sont les mots d'Éric Woerth. Xavier Bertrand a fait les comptes. Il assure que depuis 15 jours, on est entre 5 et 7 milliards d'euros annoncés. C'est totalement irresponsable. C'est, dit-il, le quoi qu'il en coûte pour la réélection d'Emmanuel Macron. Quant à Valérie Pécresse, elle estime que le chef de l'État crame la caisse. Que leur répondez-vous? Que dites-vous à ceux qui pensent que le chef de l'État est en train d'acheter sa réélection?
D'abord, c'est totalement faux parce qu'on voit que les engagements pris sont soit des engagements d'urgence. Nous venons parler du chèque énergie, par exemple. Et ce sont les mêmes qui nous expliquent que le chèque énergie n'augmente pas assez parce que plutôt que 200, ce serait mieux que ce soit 200 ou 300 ou 400 euros. Et donc, du coup, il y a une incohérence dans ce discours. La réalité, c'est quoi? Je veux prendre une mesure. Le président de la République l'a annoncé dans mon département des Alpes-de-Haute-Provence il y a quelques jours en faveur du monde agricole. Le fait qu'on change en profondeur le régime assurantiel. Ça va coûter 600 millions d'euros, dont une grande partie financée par la politique agricole commune de l'Europe. Mais c'est pas une dépense nouvelle. Au printemps, il y a eu un gel massif dans notre pays. L'État s'est engagé à hauteur de 1 milliard. Ben plutôt que de devoir gérer des urgences, on met en place un système assurantiel. C'est ça, préparer
oui,
l'avenir.
Oui, mais il n'y a pas que la droite qui tape, si j'ose dire. Je ne sais pas si vous avez lu Édouard Philippe dans les colonnes de Challenge ce matin, de Challenge, pardon, carrément en mode français. J'ai dit Challenge. Édouard Philippe qui titre, enfin, l'article, c'est l'alerte d'Édouard Philippe sur la dette, les dépenses et les déficits. On a l'impression d'avoir trouvé de l'argent magique, mais ça marche pas comme ça, dit l'ancien Premier ministre.
Mais il a raison, et d'ailleurs ça n'est pas ni notre culture, ni notre philosophie. D'abord, il faut répondre à l'urgence. C'est ce que nous avons fait avec le quoi qu'il en coûte. Et puis à un moment donné, quand l'économie va mieux, on suspend le quoi qu'il en coûte. Mais ensuite, on répond aussi à l'urgence sociale, et c'est nécessaire de le faire. Mais nous devons assumer d'avoir baissé de 52 milliards les impôts des Français pendant ce quinquennat, c'est 2 points de PIB, d'avoir moins de recettes, et de faire en sorte de devoir tenir les deux bouts d'une dépense, parce que nous sommes des gestionnaires.
Dans ce même entretien, Édouard Philippe plaide pour repousser l'âge de départ à la retraite à 65, 66, voire 67 ans. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin, Édouard? 67 ans, tu es complètement fou ou pourquoi pas?
Ah non, je ne dis pas pourquoi pas. Je pense que de toute façon, cela se construit et que la campagne présidentielle doit nous permettre aussi d'aborder cela. Je sais, parce qu'il faut être sérieux, qu'il faut sauver le régime de retraite. Et que ceux qui aujourd'hui nous expliquent qu'on va mettre la retraite à 60 ans mentent aux Français et mentent surtout aux futures générations. Parce que 60 ans, ça veut dire qu'il n'y a plus de régime de retraite et que le régime explose.
67 ans, c'est faisable?
Écoutez, des pays voisins l'ont fait. J'ai vu que l'Allemagne, l'Italie sont sur ces dynamiques-là. Ça n'est pas mon objectif. Pour être très clair, je pense que ça n'est pas nécessaire au moment où on se parle et au moment où on se parle des informations que nous avons.
Venons-en donc au bilan du quinquennat. Le président de la République vous a tous demandé, aux troupes, de monter au front médiatique pour mettre en valeur et défendre son action. On a déjà pu commencer à l'entendre ce matin. Des tracts sont par ailleurs distribués en ce moment pour montrer que les promesses ont été tenues. Si vous deviez, Christophe Castaner, prendre trois adjectifs, trois, allons-y, pour qualifier ce quinquennat, en faire le bilan, quels seraient-ils ?
L'attractivité, le retour de l'attractivité de la France quand on réinstalle il y a quelques semaines une usine de paracétamol, c'est-à-dire de doliprane, quand on a mal à la tête, on l'utilise tous. On ne savait plus produire cela depuis des années dans notre pays. L'attractivité est un élément.
Deux.
La résistance. Parce que nous avons traversé des crises exceptionnelles, et notamment celle sanitaire de la Covid, et nous avons tenu. Nous avons tenu bon et nous avons fait en sorte de préserver les finances de nos concitoyens et en même temps de tenir la tête hors de l'eau des entreprises.
Et trois.
Et puis des sujets sociétaux majeurs comme par exemple, et parce que le décret a été publié hier, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. C'était un combat que nous voulions mener, sur lequel je m'étais personnellement engagé et je suis heureux de le voir dans les faits rentrer en vigueur.
Près de deux tiers des Français estiment qu'Emmanuel Macron n'a pas assez agi sur l'écologie. Pendant le quinquennat, on a vu tour à tour le Haut Conseil pour le climat climat en 2019, puis le Conseil d'État dans son arrêt Grande-Synthe, novembre 2020, et enfin le tribunal de Paris dans le cadre de l'affaire du siècle, février 2021. Notez l'incapacité de la France à tenir ses engagements de réduction des gaz à effet de serre. Est-ce un quinquennat raté, pour le dire simplement, sur le climat ?
D'abord, en 2020, nous avons tenu ces objectifs. 2020, c'était l'année dernière, donc regardons un peu de façon rétrospective. Il y a des raisons pour lesquelles, mais on a pris un certain nombre d'engagements, on a transformé un certain nombre de choses. Il faut du temps pour cela. Et je suis d'accord avec vous, il n'y a pas cette perception. Tout à l'heure, j'évoquais 1 million de maisons de particuliers qui sont rénovés. C'est agir pour la planète. Alors on pourrait dire ça ne suffit pas, c'est 2 millions, c'est 3 millions. Nous devons continuer et nous devons même aller plus vite encore sur ces sujets. Nous venons d'adopter une loi climat et résilience qui apporte des réponses, mais nous devons surtout sur ce sujet, nous en avons parlé.
Mais là encore, il y a une question, je prolonge la question de Léa sur le pouvoir d'achat. Il y a une question de perception. 2/3 des Français estiment que le quinquennat a été faible sur ce point. Vous dites que beaucoup de choses ont été faites. Pourquoi alors ce problème de perception ?
Parce que quand on agit par exemple sur les transports, en rétablissant les trains de nuit qui avaient disparu de notre pays depuis longtemps, quand on agit sur l'habitat, nos concitoyens n'ont pas forcément le sentiment qu'on agit en réalité pour la préservation de notre planète. Et puis ensuite, il y a des sujets d'incarnation, on n'a pas tout fait bien. Attendez, je ne vous dirai jamais ça.
Le sujet d'incarnation, c'est intéressant que vous le mettiez sur la table, si j'ose dire. De toute la génération des nouveaux visages entrés en politique avec Emmanuel Macron, seuls quelques-uns ont imprimé, comme on dit. Vous êtes de ceux-là, mais vous êtes rare. Pourquoi si peu ? Est-ce qu'Emmanuel Macron préférait s'entourer de personnalités qui ne prenaient pas trop la lumière et qui du coup ne lui faisaient pas d'ombre ? Pourquoi vous êtes, au bout de 5 ans, si peu à avoir marqué les esprits dans la nouvelle génération de la Macronie ?
Je pense qu'il y a une explication, c'est que c'est une nouvelle génération qui est venue aux responsabilités et qu'on imprime dans la durée en politique. On avait l'habitude d'avoir des générations de 30 ans, 40 ans, 50 ans. On se présentait 2 fois à l'élection présidentielle avant de gagner. Aujourd'hui, on est dans un temps beaucoup plus rapide. Ceux qui m'entourent à l'Assemblée nationale représentent 1000 visages nouveaux de la diversité, de métiers différents.
Même moi qui suis journaliste et qui suis ça, je pourrais vous en citer au maximum 10 de noms.
Oui,
je ne pose pas la question français. Comment vous expliquez ça ?
Mais parce qu'il faut du temps pour cela. Et peut-être aussi parce que ce sont toujours les mêmes. Je suis régulièrement invité dans votre studio. J'y attache du prix pour venir. Voilà, il faut du temps pour imprimer. Mais sachez que j'ai souvent entendu Emmanuel Macron dire à ceux qui l'entourent « N'ayez jamais peur de gens plus intelligents que vous. » Et donc, il n'y a pas de volonté de tirer par le bas, parce que seule la lumière de celui qui vous parle ou du président de la République serait utile.
Alors, sur le défaut d'incarnation, le journaliste Jean-Michel Apathy a une autre explication. Il écrit dans son dernier livre « Les amateurs, en 2017, nous avons confié l'État à des amateurs. Quel est leur bilan maintenant que le quinquennat se termine ? Mal préparé, mal organisé, les amateurs ont souvent été mauvais. » Est-ce que vous le trouvez cruel ?
Ah, je le trouve totalement injuste et cruel et caricatural. Et pour ce qui me concerne d'ailleurs, je me souviens d'avoir des échanges avec lui que je n'ai pas vu traduits en mots tels que je les avais portés. Mais c'est son opinion. Ce que je note quand même, c'est que les Français, manifestement, sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cruels que Jean-Michel Apathy. Et je préfère peut-être l'ambiance du marché de Fort-Calquier lundi matin en rencontrant des gens qui me donnent leur avis, qui critiquent quelquefois plutôt que des réquisitoires médiatiques.
C'est pas un réquisitoire médiatique, c'est un livre important. Pierre Rosanvallon, dans son dernier livre, analyse la place majeure qu'occupe dans notre société le ressentiment, l'indignation, la colère, l'amertume, l'anxiété et la défiance. Ceux qui répondent actuellement le mieux à ces émotions, ce sont les populismes, les populistes. En face, il dit, on a les politiques de la raison, perçues comme bureaucratiques et parfois méprisantes. Emmanuel Macron les incarne, dit Rosanvallon. Que lui répondez-vous ? A-t-il totalement tort ?
Non, je pense que dans le diagnostic, il a raison. Mais ce n'est pas parce que tenir le discours de la raison est difficile qu'il ne faut pas le faire. Et donc effectivement, entre les excès, les caricatures auxquelles on assiste dans ce début de campagne et ce bal des caricatures, entre des vieux partis qui veulent refaire le match avec la même rengaine, avec les mêmes fausses propositions, moi j'assume la difficulté du discours de la raison. Mais la raison, c'est pas un consensus.
Pourquoi c'est une langue qui ne passe pas ? Pourquoi cette langue bureaucratique ? Pourquoi les populistes semblent parler davantage, en tout cas des tripes ou... Pourquoi ça fonctionne mieux ? Ça vous interroge ?
Oui, bien sûr. La raison n'est pas une forme de langage bureaucratique. C'est une forme plus complexe de penser, mais il faut l'assumer telle qu'elle. Parce que c'est beaucoup plus facile d'utiliser la caricature et de partir d'un micro-exemple ou de dire « il n'y a qu'un faucon ». Mais c'est notre responsabilité d'essayer d'élever, et c'est prétentieux, et donc j'aime pas cette formule, mais d'élever le débat et vous nous y aidez. J'écoutais tout à l'heure votre invité juste
à 7h50,
avant moi.
Ouais,
il y a la possibilité de traiter du sujet politique en mettant du fond dans les choses.
Passons à la question de l'immigration qui occupe le début de cette campagne présidentielle. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Marine Le Pen, ils veulent tous, Christophe Castaner, un référendum sur l'immigration. Est-ce selon vous une mauvaise idée ?
Oui, parce que ça vise à désigner des coupables, des boucs émissaires. Avec, pour certains, et pas de ceux que vous avez cités, un amalgame entre immigration et la religion musulmane. On voit bien aussi cela dans la campagne. Je pense qu'il ne faut pas hystériser le sujet. Il y a des phénomènes migratoires que nous devons mieux contrôler, mais que nous devons assumer. Le principe de l'asile dans ce pays est un principe fondamental. Et quand il est détourné, nous devons faire en sorte que celles et ceux qui n'ont pas vocation à rester en France retournent dans leur pays. Il faut tenir ce point d'équilibre sans angélisme.
Le 11 septembre dernier, à l'Express, vous disiez « politiquement, Éric Zemmour n'est rien ». Aujourd'hui, qu'il est donné entre 10 et 13%, vous dites toujours ce matin « politiquement, Éric Zemmour n'est rien ».
Oui, au sens du contenu idéologique. Je ne dis pas que ça n'est pas un adversaire, parce que j'ai toujours un grand respect pour nos adversaires. Et même à 8, il se trouve que je fais partie de ceux qui, depuis de longs mois, évoquent l'hypothèse Éric Zemmour comme pouvant venir troubler l'élection.
Idéologiquement,
mais il n'est rien dans sa structuration idéologique.
Il
n'est que dans le constat, dans la réécriture. C'est un bonimenteur de l'histoire. Et il construit à partir de son raisonnement biaisé d'une France nostalgique, idéalisée, une caricature qui de toute façon n'a qu'un seul sous-jacent. La peur du musulman qui l'agite sans cesse.
On va passer au standard où nous attend Bernard. Bonjour, bienvenue. Vous êtes là, Bernard?
Bonjour,
oui.
Oui, je suis là.
On vous écoute.
De prendre ma question.
Je vous en prie.
Oui, ma question s'adresse... bonjour à tous sur le plateau. Ma question s'adresse à M. Castaner en tant que député. Est-ce qu'il n'a pas l'impression parfois de contribuer à la dégradation de l'image qu'on se fait d'une démocratie quand on a un Parlement aux ordres qui est toujours la main sur le pied du pantalon et qui dit oui à tout ce que dit le président? J'en veux pour preuve que personne ne s'est insurgé quand M. Macron a décrété que certains Français n'auraient pas les mêmes droits que d'autres en fonction de leur état vaccinal ou non. Mmh. Et on voit encore une fois qu'il y a une espèce de tambouille politique autour de l'extension du pass sanitaire. Quand on voit que le Premier ministre consulte le Sénat pour voir si ma foi on peut reconduire ou pas, et que finalement tout le monde tombe d'accord et qu'on ne prend pas en compte l'avis et le ressenti des Français.
Bien reçu.
Que les députés... Voilà, les députés sont élus par le peuple pour représenter la voix du peuple et pas pour être aux ordres d'un président.
Merci Bernard pour cette question. Christophe Castaner vous répond.
Bernard, on peut être d'accord avec le président de la République, ça n'est pas grave, ça ne veut pas dire être godillot. Moi, je suis favorable au pass sanitaire. Je l'ai voté, je l'ai porté. Et d'ailleurs, les Français sont favorables à la vaccination et au pass sanitaire parce que c'est efficace. Et qu'aujourd'hui, la France est un des premiers pays au monde en termes de vaccination. Et ça protège les uns les autres. Y compris d'ailleurs, nous protégeons en nous faisant vacciner ceux qui refusent de se faire vacciner. Et donc, cette caricature de procès qui est faite sur ce sujet et sur le travail parlementaire me paraît injuste, fondamentalement injuste. Et sur la question du pass sanitaire, j'ai participé à toutes les réunions qu'a organisées le Premier ministre, avec l'ensemble des partis politiques, l'ensemble des groupes politiques, avec les partenaires sociaux, avec les associations d'élus. Il y a eu en amont une très large concertation. Alors certains qui sont hostiles à la vaccination et qui font semblant d'être hostiles au nom des libertés, d'une liberté très individuelle qui n'est jamais la liberté collective, revendiquent et nous disent qu'il n'y a pas eu de concertation, pas de débat et que nous serions des godillots. Bernard, ça n'est pas le cas.
Thierry au standard, bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour. La concurrence devait faire baisser le prix du gaz. Bon, je m'aperçois que c'est faux. Ensuite, Engie promet des dividendes conséquents en 2022. Je crois qu'ils annoncent plus 12% après avoir versé au moins 9 milliards de dividendes. Le chèque de l'État, c'est évidemment nos impôts. Donc je pense que bloquer les prix, c'est dans la loi, c'est possible.
On retrouve donc la question que vous posez, Léa, tout à l'heure. Christophe Castaner, comment répondre ? La concurrence, c'est quand même ce que dit Thierry, devait faire baisser les prix. Hein.
Ah oui, mais le problème, c'est la matière première. Enfin, ce dont on parle, c'est du gaz. Et le prix n'a pas augmenté en France par ceux qui vendent le gaz. Le prix a augmenté dans la ressource, pour plein de raisons, notamment des raisons géopolitiques. Et c'est ça qui doit nous interroger. Alors si certains pensent qu'il suffit de bloquer les prix pour régler le problème du gaz ou du pétrole dans le monde, je le dis, et je le dis à Thierry, ils se trompent. Moi, je préfère qu'on se pose globalement la question de l'isolation énergétique, globalement la question du mix énergétique dans notre pays, sur lequel on a peut-être fait, au terme de 50 ans, des erreurs stratégiques, en donnant trop de place au nucléaire. Mais aujourd'hui, celles et ceux qui, y compris sur votre antenne, pensent qu'on peut se débarrasser du nucléaire dans des délais rapides, trompent et mentent aussi aux Français.
Mais sur le nucléaire, parce que au tout début de l'interview, vous avez dit qu'il faut se poser la question de la juste place du nucléaire dans notre pays. Quand on voit l'augmentation des prix, est-ce que vous vous dites, est-ce que vous vous interrogez sur l'objectif fixé par Emmanuel Macron de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production d'énergie d'ici 2035? Est-ce que vous vous dites peut-être qu'il faut revoir le calendrier?
Non, je pense qu'il nous faut tenir ce calendrier parce que ça veut dire qu'on est capable en France de monter en puissance sur les énergies alternatives. Mais on voit aussi toute la difficulté. Pendant les régionales, j'étais surpris de voir que le débat principal qui était posé était celui des éoliennes. Est-ce qu'on est pour ou contre les éoliennes? Et sans cesse, on voit des reportages, même les éoliennes en mer et loin, on a des manifestations contre. Donc il faut aussi accepter.
Xavier Bertrand veut zéro éolienne.
Mais zéro éolienne. Et puis ailleurs, si vous voulez installer un champ photovoltaïque, on veut zéro champ photovoltaïque. Et puis on veut zéro nucléaire. Et en même temps, on se dit, ah mince, c'est ennuyeux, on dépend des pays étrangers, de certains pays qui peuvent couper le robinet du gaz ou le robinet du pétrole. Eh bien non. Vous voyez, la réalité, elle est complexe. Il se trouve que la France ne produit pas aujourd'hui assez d'énergie. Par contre, elle a une pépite, mais qu'il faut encadrer, surveiller, c'est l'énergie nucléaire. Et c'est aussi pour cela qu'on a un prix d'énergie aujourd'hui qui est plus faible que dans certains pays voisins.
Quelques questions rapides. Julien, sur l'application d'Inter, en dehors du gaz, de l'énergie, les courses d'alimentation ont augmenté de presque 20%. Notre pouvoir d'achat est en train de fondre. Que compte faire le gouvernement, vous demande-t-il? Vous n'êtes pas au gouvernement, mais c'est à vous qui est adressé la question.
Oui, mais je n'ai pas vu d'inflation à 20% sur les courses. Et je fais moi-même mes courses. Mais je ne suis pas peut-être suffisamment attentif sur cela et pas représentatif. Mais ce que nous faisons, c'est notamment les augmentations salariales dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des mesures importantes. Quand nous rendons 52 milliards d'impôts en moins, la taxe d'habitation qui concerne beaucoup, c'est 25 milliards qui sont rendus aux Français. Et je pense que c'est cela aussi qui compte. Sur l'impôt sur le revenu, c'est 18 milliards qui sont rendus aux Français.
Vous avez dîné hier soir avec le président de la République et quelques proches du président de la République. Est-ce qu'il vous a dit il faut créer le grand parti avec le MoDem de François Bayrou, tuer La République en Marche et créer cette grande maison commune, où il a tué l'idée, si j'ose dire?
J'ai pas vocation à évoquer, oui, j'ai dîné avec le président et avec d'autres hier, j'ai pas vocation à évoquer ce dîner, mais je sais la volonté du président. D'abord de constater que notre majorité présidentielle fait cette rentrée dans un climat plutôt serein. Nous sommes plutôt unis, nous sommes plutôt renforcés, et je pense qu'il est nécessaire, certes, de structurer, c'est la question d'un parti qui doit encadrer tout
cela.
Faut
le faire ou pas?
Mais surtout s'élargir. Moi, j'y suis favorable, mais je vais vous dire, je pense que ça n'est absolument pas le sujet essentiel de préoccupation des Français.
Non,
nous le savons, vous et moi. Je pense qu'il faut travailler sur cette structuration, mais en même temps, l'essentiel, c'est le projet que nous portons, c'est de défendre nos valeurs, c'est de préparer l'avenir de la France, c'est de faire face.
Sur un autre thème et dans un autre registre, votre compte Instagram, Christophe Castaner, est assez étonnant.
On regarde toutes les semaines.
Vous publiez des haïkus. Il y a 3 jours, vous écriviez ainsi « Si lourd ciel d'automne perle soudain des larmes de pluie, virgule, la mélancolie ». De quoi êtes-vous mélancolique, Christophe Castaner? Vous attendez quoi, le retour des beaux jours?
Sur mon Instagram, je publie effectivement avec la contrainte de l'écriture sous la forme d'un haïku, c'est-à-dire 3 vers en 5, 7 et 5 syllabes. Et c'est plutôt des émotions personnelles. C'est plutôt des photos que je fais moi-même et des commentaires qui portent sur des émotions. À ce moment-là, il se trouve que j'avais une mélancolie personnelle que j'ai traduite par ce haïku.
Vous écrivez de la poésie, donc?
Et j'aime cet exercice-là, cette contrainte-là. Et je trouve que les réseaux sociaux sont d'une telle violence, et je pense en particulier à Twitter, que j'essaye de préserver mon Instagram en abordant ces sujets, non pas toujours mélancoliques, mais avec poésie.
La une de Libération ce matin, abolition de la peine de mort, avec une photo forte, belle, de Robert Badinter en une, 40 ans après le vote contre la peine capitale. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez certains remettre en cause cette avancée historique ?
Le dégoût parce que c'est l'opportunisme qui est derrière. Ils savent que de toute façon nous ne le ferons pas, mais ils essayent de parler à la partie de notre âme qui est quelquefois assez noire.
Merci Christophe Castaner d'avoir été à notre micro ce matin, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. 8h47.
France Inter.